France Musique.
Ah. Oh.
Vous êtes dit ?
Non.
À dire, hein.
Ici, Radio Memeu.
Vous fumez beaucoup, Serge Gainsbourg.
Oui.
De l'entrée en scène, c'est comme des bras d'amour, hein.
À vous, mon cher Dac.
Après vous, mon cher Blanc.
Mais je n'en fais rien.
Vous en êtes un autre.
Ma parole, ça fera guincher.
Langage, langue, langage.
Il y a quelques semaines, sur France Inter, le camarade Philippe Meyer consacrait son émission « La prochaine fois, je vous le chanterai » à une certaine Henriette Ragon, alias Patachou, disparue en avril 2015. Il faisait surgir la voix de la grande dame de ses greniers à lui, puisqu'il avait eu la chance de la rencontrer longuement. En 2002, Patachou avait alors 84 ans, une voix de baryton basse, tendance fumeur. Réécouter Patachou dans cet espace de voix-là, au soir d'une vie, c'était captivant, car l'artiste n'avait rien perdu de sa superbe, de son art de conteuse et de raconteuse. Alors pour nos greniers de la mémoire, on a eu envie de remonter le temps de cette voix-là, celle de Patachou, et de la trouver mezzo-soprano dans les années 1950. Tenez, on commence avec un document d'archives de 1990. Une petite scène, délicieuse, captée ensuite en 1956, où Jean Poiret et Michel Serrault lancent, comme on dit dans le jargon, Patachou, chantant Les Voyous, puis Paris sur garde, pour ensuite l'écouter nous décrire d'une voix claire, dans les années 50, son appartement de Montmartre. Magie des archives qui défie les chronologies.
Quand je suis en scène, ce que je veux qu'on voit, c'est moi. Et je ne tiens pas du tout à ce que les bonnes femmes dans la salle se disent « Oh, mais t'as vu comment c'est monté la robe ?» Il y a une pince là où il n'y en a pas. Non, c'est moi. C'est comme quand on me demande « Mais avant d'entrer en scène, vous pensez à qui ?» Moi, je pense à moi avant d'entrer en scène. Et puis quand on m'a demandé quelle était ma chanteuse favorite, j'ai toujours répondu que c'était moi. Alors certains vous diront que c'est une forme d'orgueil, mais je vous dis que c'est de l'honnêteté, parce que je vous dis « Montrez-le-moi un peu celui qui ne pense pas à lui quand il rentre en scène. » Parce que je peux te dire que c'est dangereux d'être tout seul en scène.
Eh bien, voici pour ajouter encore à notre bonheur, voici pour vous et pour tous nos amis, voici notre amie, la grande interprète de la chanson poétique, Patachou.
Ah, oh, Patachou, mais je la connais, c'est mon ami.
Eh bien, voici Patachou, accompagné par Jean Bassanelli.
Il y a un monsieur qui écrit des chansons incroyablement poétiques, qui un jour a eu la gentillesse de vouloir bien m'apporter une chanson. C'est une chose importante pour nous quand un auteur veut bien se déplacer et nous apporter une chanson. Une chanson qui n'est pas dans son style habituel, ce qui est encore plus extravagant et qui m'a fait encore plus plaisir. Le monsieur, il s'appelle Grassi. Il est là derrière son piano. Et la chanson qu'il a bien voulu m'écrire, il l'a appelée « Les Voyous ». Les voyous ont les mains bien trop blanches. C'est pas eux qui casseraient des cailloux. Ils marchent en s'appuyant sur les hanches avec de la mollesse dans les genoux. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Ils font le commerce des cartes postales où on voit des dames peu habillées. Ou bien du côté de la place Pigalle, ils jouent les grands calmes énervés. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Ils sont bien souvent d'humeur méchante. Faut pas leur écraser les doigts de pied, surtout si vous faites 1m50 et 40 kilos tout habillés. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Parfois en période électorale, ils se transforment tous en écoliers.
pour aller à l'école communale, voter plusieurs fois sans rechigner, laisser passer les voyous, là les grands voyous. Mais tout n'est pas rose dans leur vie. Ils se tuent entre eux au coin des rues. Rien dans la rubrique nécrologie. On lave le trottoir et rien de plus. Laissez passer les voyous, là les grands voyous. Tiens, là, lavé le trottoir, là-bas, il s'est passé quelque chose? Où donc? Là? Oh non! Oh non, rien. Bon, en tout cas, vous savez, rien d'important. Que les Parisiens aiment bien chanter leur ville et que nous avons par bonheur des auteurs de chansons qui passent à peu près leur vie à écrire des chansons sur Paris. Quand ils ont fini d'écrire une chanson sur Paris, ils se dépêchent d'écrire tout de suite une autre chanson sur Paris. Pendant qu'un autre gars, d'ailleurs, dans un autre coin de Paris, est en train d'écrire une chanson sur Paris. Et alors, Francis Lemarque est un spécialiste des chansons sur Paris et il m'a apporté une chanson sur Paris. Alors voilà ce qu'on peut considérer comme la dernière chanson sur Paris de Lemarque. Enfin, je dis la dernière parce que ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vue. En tout cas, celle-ci, il l'a appelée Paris se regarde. Paris se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ses maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé, dans le cœur des poètes, à la ville comme à la Seine. Paris s'habille de poèmes. Paris qui s'écoute chanter s'émerveille toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la police, dirait que chaque année il a un an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mise en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a rien oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre, a gardé sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris qui adore les chansons fait chanter tous ses accordéons.
Je vis entre des toits, cette terrasse dont je vous parle, qui fait partie de mon appartement. C'est une terrasse de laquelle on ne voit pratiquement rien. Enfin, dans le sens grand paysage, horizon, il n'y a pas d'horizon.
Non, on voit une vieille petite
rue. Moi, je n'ai pas besoin d'horizon, d'ailleurs. Je m'en arrange très bien. Les horizons ne m'apportent pas grand-chose. J'aime bien mieux buter sur des murs ou même sur des fenêtres, comme c'est le cas, car vous voyez qu'en face, enfin, vous verrez tout à l'heure, qu'en face de ma terrasse, il y a les fenêtres des appartements des gens qui habitent la maison d'en face. Mais ça ne m'ennuie pas, puis ça ne les ennuie pas non plus, d'ailleurs, parce qu'ils ont l'habitude de me voir aller et venir. Et puis j'aime bien, parce qu'il y a du monde. Moi j'aime bien le monde. J'aime bien l'être humain, moi j'aime bien les avoir tout près.
D'ailleurs vous avez le don d'être tout de suite bien avec les gens, avec n'importe qui.
Il m'est indifférent de savoir si un tel ou une telle qui me plaît vient de là ou là ou là, ou a son actif telle ou telle ou telle chose. L'important n'est pas là la qualité des êtres. C'est dans l'être seulement que je la cherche. Alors je suis ou bien tout de suite, ou bien jamais. Il y a des êtres avec lesquels je sais que ça n'accrochera jamais. Peut-être c'est moi qui ai tort, j'en sais rien. Mais je n'essaie pas. Je ne cherche pas. Il faut que ça colle tout de suite bien. Alors à ce moment-là, c'est que ça va. Mais s'il faut aller chercher, s'il faut travailler un problème pour arriver à se rapprocher d'un être, je trouve que non. Tout ça, ça fait partie d'une espèce de... pas de principe, puisque précisément je n'ai pas de principe. Mais je ne sais pas. Vous savez, moi je manque de mots, hein. Je n'ai pas une formation extraordinaire, il faut bien le dire. Ça fait partie d'un truc selon lequel je n'aime pas trafiquer. Alors, ou ça s'arrange tout seul, ou ça s'arrange pas. Voilà, c'est ça le principe de la bonne femme.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, mais on l'oublie jamais, le flonflon qui vous met le cœur en fête, quand le vieux musicien dans le quartier va revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette, après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson. D'un franc de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur, la chansonnette. Et passons la monnaie en brave fille qui connaît la chansonnette. Elle a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de livret, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
C'était en 1961 pour un disco parade, célèbre émission de Jean Fontaine des années 60, en direct du théâtre de l'Alhambra, que Patachou interprétait la chansonnette, cette chanson qu'allait populariser Yves Montand, qui avait été écrite pour la dame par Jean Dréjac sur une musique de Philippe Gérard. On a de la chance avec les émissions de radio sur Patachou, conservées à l'INA, c'est que l'artiste, très tôt dans sa carrière, racontait en détail tous ses débuts au micro de l'homme de lettres et producteur Pierre Lost, une émission qui s'intitulait Panoramique, et Patachou décrivait sa vie au tout début, né en 1918 à Paris, des premiers métiers tout d'abord de dactylo aux éditions Raoul Breton, l'éditeur de Charles Trenet, et puis d'employé dans une usine durant la Seconde Guerre mondiale, un mariage avec Jean Billon, le commerce aussi, des chaussures, des pâtisseries, des antiquités, et puis l'aventure d'un drôle de restaurant surnommé Chez Patachou, au 13 rue du Mont-Cenis, sur la butte Montmartre. On va l'écouter tout de suite donc au micro de Pierre Lost, et vous entendrez une curieuse émission ensuite qui date d'avril 50, depuis le fameux cabaret de Patachou justement. Elle y invite André Claveau ou encore Jacqueline François, rien de moins, à faire le grand orchestre Patachou.
Une espèce de hasard miraculeux, puisque ça a été le départ d'une chose extraordinaire qui m'est arrivée, mais cela est extrêmement précis. Il s'est passé une chose précise, un jour précis, avec des gens précis. Je me souviens exactement. Voilà donc comment ça s'est passé. Nous étions propriétaires, mon mari et moi, d'une petite pâtisserie salon de thé que vous connaissez, qui s'appelle Patachou et qui se trouve sur la butte Montmartre. J'étais parfaitement heureuse et parfaitement installée dans cette petite affaire. Je tenais la caisse, j'allais balader mon petit bébé sur la butte Montmartre comme toutes les autres femmes. Seulement j'ai un mari qui ne s'arrête jamais, à peine a fini un truc, qui pense qu'il faut en faire un autre parce que à partir du moment où il est installé dans une chose, ça l'agace, il a la pression de piétiner, il a envie de faire autre chose. Alors, nous sommes donc dans cette pâtisserie installée, dans ce salon de thé qui marche bien, et depuis un an, à côté, un local se trouve disponible. Jean déclare que nous allons louer le local. Je lui dis pourquoi faire. Il me dit bah parce que nous allons agrandir cette maison qui marche bien l'été, les touristes. Nous allons faire un thé dansant. Samedi, dimanche après-midi, on fera thé dansant. Moi, je lui dis thé dansant, va se compliquer la vie avec ce truc. Non, 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 thé dansant. Bon, il fait ce qu'il veut. Il loue le local. À quelques temps de là, alors qu'il est en train de le repeindre, et de se parce qu'il fait ces trucs-là lui-même, de le repeindre et de se débrouiller. Il me dit, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, c'est un restaurant que nous allons faire là. Oh, je dis non, pourquoi non? Ça complique tout, il faut installer une cuisine, il faut prendre à nouveau du personnel. Si, il y a une possibilité, me dit-il, c'est joliment placé, il y a le petit jardinet, la salle est jolie, il y a une grosse cheminée dans laquelle on peut faire des feux de bois l'hiver, on peut arranger ça très joliment à très peu de frais dans le genre rustique, et nous en ferons un restaurant calme, me dit-il.
Calme ?
Persuadé d'avoir trouvé une idée, quelque chose de fantastique. Il me dit, tu comprends, la butte Montmartre est un endroit dans lequel il y a du bruit dans tous les établissements, que ce soit restaurant ou cabaret, ce sont des choses extrêmement bruyantes, dans lesquelles les gens chantent en chœur, les gens font un raffut incroyable, il y a les chahuteurs dans toutes les boîtes. Nous allons faire une maison calme. Et me dit-il, les gens qui montent sur la butte Montmartre parce que le cadre est joli, l'endroit est joli, sont infiniment contents d'y trouver un établissement bien tenu, gentil et dans lequel ils seront au calme. Bien dis-je, nous ouvrons cette maison et il n'y a personne. Il faut bien le dire. Il n'y avait pas un rat. Car, arrangez ça comme vous voulez, les gens vont à Montmartre pour y faire du bruit, pour y chanter, pour y trouver une ambiance particulière qui fait partie du cadre. Et ça, il n'y a pas à en sortir, c'est comme ça, c'est pas la peine d'essayer de vouloir casser les murs, c'est comme ça. Nous ne nous entêtons pas longtemps, nous prenons deux musiciens, un accordéoniste qui s'appelait Jacques Gache et un pianiste. L'accordéoniste est un personnage assez étonnant. Il avait un stock de musique en mémoire, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré un être comme celui-là. Il connaissait des musiques typiques de tous les pays. Il avait, par exemple, il n'avait pas 50 de chaque, si vous voulez, mais c'est déjà complètement extraordinaire quand on considère qu'il avait une musique populaire grecque, une musique populaire turque, une musique populaire polonaise, danoise, et avec les refrains chantés dans chacune des langues. C'était d'ailleurs rigoureusement tout ce qu'il savait de chacune de ces langues. Mais il n'empêche que ça faisait un effet assez sensationnel quand, à une table de hollandais, si vous voulez, il s'approchait avec son accordéon et à ce moment-là, il leur chantait une bonne chanson hollandaise avec leurs refrains chantés. C'était pas mal, déjà. Et là, ça faisait tout de même un petit mouvement. Dès lors où on entendait vaguement du bruit en passant devant cette porte, les gens hésitaient déjà beaucoup moins à y entrer. Ils n'avaient pas l'impression de tomber dans un caveau de famille, mais ils se sentaient dans une chose qui correspondait assez à l'ambiance de Montmartre.
Alors, je vous explique d'abord comment on fait le grand orchestre. Voilà. En chantant, on vous pose une question, on vous dit « Ami, de quoi jouez-vous » à peu près sur cet air-là. « Ami, de quoi jouez-vous » Et à ce moment-là, vous répondez tous ensemble à la façon d'un écho, la même chose. Ça, quand je vous ai dit ami de quoi jouez-vous, vous-même me dites ami de quoi jouez-vous. Et à partir de ce moment-là, on passe en revue un certain nombre d'instruments de musique, puisqu'il est parti d'un, il fait partie d'un grand orchestre, je l'ai dit. Et quand on cite un instrument, vous faites tous les gestes qui correspondent. Donc pour que ce soit plus joli, et puisqu'on a la chance d'avoir des quantités de vedettes dans la maison, chacun d'entre ces, chacune d'entre ces vedettes va venir et prendre un instrument. Ce qui revient, voilà. Alors, Clavo, toi, tu vas t'occuper des violons.
Oui,
Daniel Cléry va s'occuper des trompettes, par exemple. Jacqueline François, où elle est? Jacqueline François, où est-elle? Il faut qu'elle s'occupe de la petite flûte, elle fait ça admirablement.
Oh. Allons-y. Amis, de quoi jouez-vous?
Amis, de quoi jouez-vous?
Bravo Cléris, votre trompette.
Je joue de la trompette.
Amis, de quoi jouez-vous?
Amis, de quoi jouez-vous?
Je joue de la petite flûte.
Pas très juste, hein?
Amis, de quoi jouez-vous?
Voilà, clavo et son violon. Vas-y.
Je joue du violon.
Mélange de gouaille et d'élégance depuis son cabaret de la Butte de Montmartre. En avril 1950, c'était Patachou qui déployait ses talents d'animatrice et de chanteuse. Ça, la chanson, ça n'était pas prévu au départ, mais elle avait une jolie voix, Patachou.
Un soir, un groupe de médecins entre dans la maison, s'y installe et dîne. L'accordéoniste les amuse. Ils sont gentils eux-mêmes, ils sont en de bonnes dispositions. Ils commencent, eux, à chanter des chansons comme en chantent les médecins.
Oui.
Ce ne sont pas des chansons de corps de garde, j'aime bien insister là-dessus. Ce sont des chansons de salle de garde, et ça n'est pas du tout la même chose. Corps de garde, c'est le côté militaire, le gendarme, oui, le côté... Vous voyez ? Salle de garde, c'est le côté médecin. Et je trouve amusantes ces chansons. Bien faite, drôle, assez crue, il faut bien le dire, assez direct. Parfois, je trouve ça amusant. Et je chante avec eux. Et puis, ils me disent, oh, vous avez bien chanté une chanson. Je chante une chanson, oui, si on veut. Ils sont gentils, pourquoi pas chanter une chanson? Et je chante une chanson. Je ne sais pas laquelle, je chante n'importe quoi. Enfin, comme imaginez maintenant qu'une chose pareille arrive à une n'importe quelle autre, n'importe quelle jeune femme. On lui dit chanter une chanson, ben elle chantera, je sais pas, Les Amoureux des Bancs Publics ou une chanson d'Edith ou une chanson de Jacqueline François. Moi, je fais ça, je chante une chanson, n'importe laquelle. Je crois que c'était la scène à ce moment-là, quelque chose comme ça. Et ils m'écoutent chanter et ils me disent tous les deux, mais si on a un conseil à vous donner, vous voulez votre maison marche vraiment? Je dis, on veut, on en a besoin, on en était à moins quelque chose, je sais plus combien. Et ils me disent, mais il n'y a pas 36 moyens. Restez tel que vous êtes. Bien lavé, bien brossé, bien briqué. Et puis chanter. Chanter même des chansons de salle de garde. Ces messieurs s'en vont. Et puis, tout de même, nous repensons à ce qu'ils avaient dit. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à chanter. Un refrain, deux, trois. Puis à prendre plus ou moins des chansons. Puis ils sont revenus. Ils m'ont aidé. Ils m'ont appris des chansons.
Mais vous chantiez autre chose aussi déjà à ce moment-là.
Alors à ce moment-là,
vous commenciez.
Si vous voulez, nous allons maintenant au moment où j'ai vraiment commencé à chanter, où cette maison a eu une vogue extraordinaire. Mais je crois qu'on n'a jamais vu une chose pareille.
Oui.
Il fallait vraiment réserver sa table pour y dîner 15 jours à l'avance. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Mais néanmoins, après le grand chahut, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut situer ça aux alentours de 1h du matin, quand les gens commençaient à être un peu fatigués d'avoir chanté, d'avoir blagué, d'avoir chahuté, d'avoir fait du bruit, d'en avoir entendu. La maison se calmait. Certains partaient, certains restaient. Les initiés restaient. Et ils assistaient à ce qu'ils appelaient fort gentiment la bonne heure de Patachou. Car à ce moment-là, je chantais toute seule à cette heure-là. Je chantais toute seule, accompagnée au piano, à l'accordéon. Et alors je chantais tout seul les choses que j'aime. Les choses que j'aimais et que j'aime toujours. Enfin... Je chantais par exemple Les petits pavés de Delmer.
Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé deux petits pavés dans tes carreaux que j'ai crevés et tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois, tu te moques de tout, je crois. Demain je t'en lancerai trois. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front, entre deux pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime, t'aime bien pourtant. Je t'aime, t'aime bien pourtant. Mais tu m'en as fait tant et tant. Et les gendarmes en cavalcade me poursuivront après ce coup pour me passer la corde au cou. Je me construis ma barricade et sur les pavés je mettrai, et sur les pavés je mettrai mon cœur durci par le regret. Autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, autant de chagrins encavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela. Je meurs de tout cela. Et ma chanson s'arrête là.
Les petits pavés par Patachou, devenue meneuse de cabaret tout en même temps que chanteuse et que s'arrache d'autres cabarets parisiens dans les années 50. Chez elle, la dame coupe les cravates de ses invités célèbres et moins célèbres qu'elle accroche ensuite au plafond. Patachou a une petite trentaine d'années, une jolie voix, un peu rauque et un sacré flair, comme elle s'amusait à le rappeler avec une tout aussi jolie et honnête modestie au micro de Jacques Chancel. C'était en 1972.
Quand je pense quelquefois aux gens qui m'ont fait l'amitié de débuter chez moi, si je les mettais à l'affiche et si j'avais besoin d'un gala de bienfaisance, je m'en dirais, on ferait une méchante recette.
Il y avait qui?
C'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Vanek. Ça vous dit quelque chose?
Très bon.
Il y avait un numéro qui s'appelait Les Pinsons, il y avait un monsieur qui s'appelait Raymond DeVos. Il y a un monsieur qui a chanté qui s'appelait Aznavour. D'ailleurs, j'ai reçu un télégramme tout à fait charmant d'Aznavour tout à l'heure, dans lequel il me dit, deux Aznavour en moins d'un quart de siècle, il faut le faire. Merci pour eux. Je t'embrasse, signé l'autre. Parce que Seda Aznavour, sa gamine, entrera pour la première fois ce soir en scène.
Grâce à vous.
Devant, non pas grâce à moi, grâce à elle, et puis grâce à ce qu'elle a envie de chanter. Comme tous ceux qui ont débuté chez moi. C'est pas grâce à moi qu'ils ont débuté chez moi. Ils ont débuté chez moi grâce à eux. Et ils sont devenus des vedettes grâce à eux. Hein, au fond. Il y a un monsieur qui s'appelait Félix Leclerc. Il y a un monsieur qui s'appelait Jacques Brel. Il s'appelle toujours Jacques Brel, d'ailleurs. C'est pourquoi je dis s'appeler. Ils sont pas morts, ces gars-là. Il y a Marcel Amont. Il y a Hugo Frey. Oh, mais j'en oublie, je suis très bête, je suis confuse. Vous savez à peu près tout.
Il y a eu Brassens.
Ah bon, suis-je bête? Il y a eu Brassens, oui, au fait, il y a eu Brassens, oui. Tous ces gens qui ont débuté, oui.
C'était une école, c'était un tremplin, c'était le bon rendez-vous.
Je crois que c'était le bon rendez-vous. En tout cas, c'était l'endroit où ils venaient. Pour la plupart du temps, d'ailleurs, parce qu'il s'était fait virer ailleurs. On n'y voulait pas. Mais moi, je me souviens, Brel a chanté chez moi, je crois que c'est quelque chose comme 39 semaines. Des gens téléphonaient pour réserver, demandaient ce qu'il y avait au programme. On leur disait, ben, il y a un tel, il y a Jacques Brel. Encore, disait-il. Alors qu'ils tirent tous une langue jusqu'aux chevilles maintenant. dans l'espoir où après elle rechantera.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel dans l'émission L'École des vedettes enregistrée en avril 1958. Un autre hôte du cabaret de Patachou, grand escogriffe, assez peu aimable, Georges Brassens. Il se souvenait justement au micro de Luc Bérimont, c'était en 1954, et puis ensuite on écoutera Patachou nous raconter aussi.
Parlons de votre rencontre avec Patachou, qui a été déterminante, je crois.
Oui, j'ai des amis qui étaient au collège avec moi et qui plus tard sont devenus journalistes, qui m'ont amené chez elles. Parce que ça leur faisait de la peine de me voir dans cet état. Ils m'ont amené là-haut et j'ai chanté à Patachou des chansons. Et Patachou m'a pris sous son aile et m'a fait chanter tout de suite.
Mais comment vous, qui étiez un personnage tout à fait retranché du monde, vous le disiez tout à l'heure, vous ne saviez même plus comment on va acheter son pain, comment avez-vous fait pour passer de cette totale solitude au public devant lequel vous étiez obligé de chanter tous les soirs?
Bien, on m'a pris, vous savez, Patachou m'a pris, m'a mis en scène et m'a dit tu vas chanter. Puis j'ai chanté parce que j'étais gentil.
Pour lui faire plaisir.
Oui, un peu pour lui faire plaisir, un peu pour me faire plaisir aussi quand même.
Brassens, il est entré dans ma vie. Bon, il se trouve que j'avais moi à l'époque la possibilité de faire quelque chose pour lui, c'est-à-dire de lui dire bon, vous entrez monsieur, voulez-vous bien rester? Voulez-vous bien rester? Il a bien voulu rester. Alors, qu'est-ce qui est le gagnant? C'est moi. Hein, quand un homme entre comme ça, pousse une porte, il vient pour une heure pour montrer des chansons à une dame. Bon, il a eu, lui, l'élégance de dire qu'il avait comme ça poussé beaucoup de portes, qu'il avait montré beaucoup de chansons à des gens qu'il avait laissé entrer puis qu'il avait écouté en disant « Ah ben oui, oh petite don, bah, t'es pas mal vos trucs, mais... » Bon, il s'en allait avec sa petite guitare. Bon, moi, je lui ai dit, monsieur, voulez-vous bien rester? Et moi, il a bien voulu. Mais si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, quand c'était tellement évident. D'abord, ce qui était évident, c'est qu'il fallait qu'il arrive. Dans la profession. Et puis, dans ma vie, à ce moment-là. Dans ma vie professionnelle, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là, puisqu'il est arrivé avec les joyaux que je continue de porter. Qui s'appelle Brave Margot, qui s'appelle Les Amoureux des Mains Publiques, qui s'appelle La Prière de Francis Jam, qui s'appelle Des Petits Victor Hugo, comme ça bêtement, qui m'avait mis en musique. Et Ça dépanne, ma chère, ça dépanne, ça.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, le banc public, le banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent le prénom de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, le banc public, le banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus, c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant de je t'aime pathétique, ont des petites gueules bien sympathiques.
Les amoureux des bancs publics, Patachou, chantant Brassens au début des années 1950, proposant alors au public de rester à la fin du spectacle afin de découvrir l'auteur des chansons, on peut bien dire que Patachou a lancé Brassens, qui n'était pas du genre lançable à l'époque. Et je vous propose justement d'écouter, pour entrer un peu dans l'atelier des greniers de la mémoire, une autre version, un autre récit des débuts de Brassens. On écoutait tout à l'heure Patachou, c'était en 84, elle nous racontait Brassens, Brassens est entré dans ma vie, comme elle dit. Et voici un tout autre document, tout aussi radiophoniquement génial. Nous sommes en 1954 cette fois, donc 30 ans avant, et ce n'est plus du tout la même histoire, puisque Brassens a débarré chez Patachou en 52, c'était deux ans avant, donc on est tout près de la vraie histoire.
Il prend sa guitare et je lui dis: alors, est-ce que vous voulez me chanter quelques-unes de vos chansons? Oui, 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 marmonne dans la moustache. Et alors il accorde la guitare péniblement, enfin, il bacard avec sa guitare, il engueule sa guitare. Et il commence. Nous nous taisons tous. Et il chante. Mais il chante La mauvaise réputation, qui situe le personnage. Et alors après, il me chante toutes les autres. Il se détend petit à petit. Alors il commence à tout nous montrer, toutes ses chansons. Alors, je lui dis donc que ses chansons était très belle et que j'aimerais en chanter. Et je dis que, par exemple, j'allais chanter Les Amours du Vin Public, sûrement, que j'allais chanter Brave Margot, sûrement, J'ai rendez-vous, mais les autres chansons, La mauvaise réputation, Le Fossoyeur, Corne de Rock, Le mauvais sujet repenti, c'est à vous tout seul, je lui dis. Il faut que ce soit vous qui les chantiez. Oh non, dit-il, c'est pas possible. Mais j'ai dit, pourquoi n'est-ce pas possible? Vous avez bien chanté à l'instant des chansons. Oui, me dit-il, mais il m'explique qu'il avait essayé déjà d'aller chanter ses chansons en public et que ça n'avait pas collé, que la direction de l'établissement dans lequel il avait chanté lui avait fait comprendre que non, c'était vraiment pas possible. Et en effet, c'était la dernière chose à faire avec un être comme celui-là. C'était précisément de le flanquer comme ça en pleine lumière. Ça. Brassens, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est un taureau qui était dans l'obscurité tout le temps
Et si on le poussait comme ça, dans la lumière des projecteurs, cet homme-là diminuait de moitié, était perdu, affolé, l'impression d'être cerné. Et il avait honte, honte d'être en pleine lumière. Alors ce qu'il fallait essayer, c'est de lui donner, si vous voulez, l'habitude. Simplement l'habituer, petit à petit, à ce qu'il entre en contact avec le monde, n'est-ce pas ? Alors c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire dans ma maison, aider de tout le monde.
Mais comment avez-vous fait, pratiquement ?
Ah bien, après la soirée, quand j'avais fini de chanter, je disais au public, eh bien voilà, j'ai chanté tout à l'heure une chanson qui s'appelle Les Amoureux et moi public, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Brave Margot. Ces chansons-là sont d'un garçon qui s'appelle Georges Brassens. Vous ne le connaissez pas encore. Il est vraisemblable qu'un jour vous le connaîtrez. Il est un personnage assez curieux. Vous allez le voir entrer. Il est en tout cas quelqu'un de vrai. Il est une vérité. Et c'est rare de rencontrer une telle vérité. Et alors, il entrait et chantait une chanson.
Mais vous restiez près de lui et vous...
Ah oui, j'étais assise devant, à la première table. Alors, il chantait une chanson. Et puis deux, et puis petit à petit, comme ça, il s'est habitué à devenir un cabot.
Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains charmants, maman, 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 maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Joli extrait de l'album enregistré en 1952 par Patachou, où elle enregistrait d'ailleurs plusieurs titres de Brassens, et celui-là la rejoignant pour ce maman-papa. Ce qui est extraordinaire dans la carrière de Patachou, c'est que sa notoriété bondissante à partir de 1952 ne lui enlève nullement le goût de défendre ce qu'elle aime et admire. Et elle le fait avec une grâce renversante, comme en 1954 au micro de Pierre Lost, lorsqu'elle parle de Charles Aznavour.
Il y a mon petit camarade Charles Aznavour aussi qui a beaucoup chanté chez moi. J'aime bien Aznavour.
Ah oui.
Et puis j'aime bien Aznavour parce que c'est un petit bonhomme qui sait bien ce qu'il veut. C'est un petit bonhomme qui marche son petit chemin. Il a beaucoup de mal, vous savez, Aznavour. Il a quelquefois du chagrin parce que c'est pas toujours facile de pouvoir demeurer ce qu'on a envie d'être. On est un peu tiraillé. On s'entend dire non, ne fais pas ça. Oui, tu dois faire ceci. Ah non, est-ce que tu penses que... Et c'est dur de demeurer, de dire si, puisque c'est ça que je crois, c'est comme ça que je vais faire. Et c'est un petit bonhomme comme ça, Aznavour. En dehors du fait qu'il est C'est un monsieur qui sait très bien écrire des chansons. Car M. Aznavour est un constructeur de chansons, comme il y en a peu. Il a des idées de musique très jolies, à la fois originales et jolies. Mais il est un très bon interprète. Seulement, il a sa manière.
Oui.
Il est Aznavour.
Dans le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
Aznavour, à trousse chemise, ça c'est pour Nathalie, elle se reconnaîtra sur les ondes. Un autre moment de grâce avec ces vieilles bandes dormant sur les rayonnages de Lina, trouvées par Françoise Monteil, merci à elle. Nous sommes en 1954, Patachou est avec ses musiciens et elle chante traînée.
Oh, vous savez, il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est de faire le tour de... faire le tour de l'édition de chez Breton avec des chansons. Seulement, j'avoue que c'est pas très commun, étant donné que je me rappelle quand même pas tout, j'ai pas une mémoire d'éléphant, je me rappelle pas toutes les chansons. Et puis en plus, les tons... On va se débrouiller. C'est bon, faut pas que ce soit vous qui démarriez avant moi. Parce que si vous démarrez avant moi, vous me donnez un ton, puis je serai obligée de chanter dedans. Tu comprends? Alors, vaut mieux que ce soit moi qui parte, et puis à ce moment-là, on voit si le ton est ça. Bon, attends. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... moi, j'ai toujours eu un faible pour le Vous êtes jolie. Ça. Vous... Qu'est-ce que c'est comme ton, ça?
Sol.
Sol. Fais un genre comme ça avant, toi. Vous êtes jolie, mon petit oiseau, près de vous les fleurs ne sont plus si belles. La source qui coule et les fraîches eaux n'ont pas votre voix, vous riez mieux qu'elle. Attends, bien, ça c'était bien. Je m'arrête, c'est parce que je me rappelle plus de la suite. Attends. Il y avait aussi l'autre truc qui était très bête, c'était le Il pleut dans ma chambre. Tita, ta 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 ta. Qu'est-ce que c'est ça? Papa, c'est sol aussi. Ben alors, il n'y a qu'à tout faire en sol, non? On peut pas tout faire en sol? Attends, oui, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais un truc genre pompier au départ? Attends. Il pleut, ta ta ta. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est plus ça. Vas-y. J'ai pas envie de le chanter, lui. C'est ça, vas-y. Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons, et dans la montagne, le genre du violon, tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Tip et tap, tip top, tip, 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 tip top, et tap. Parce que tu vois que c'est ça, la nuit, c'est la chanson de la pluie. Et voilà, c'est ça. Un doux parfum qu'on respire, c'est...
Oh, et ça. Oh, tu parles. Oh oui, attends, on la chante celle-là, vas-y, attends. Attends, démarre. Ménil. Oh, c'est trop, tu me prends pour les lipons, c'est zig. Ménil montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Je me souviens de la petite gare où tous les trains partaient joyeux. La 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 la, où la la brise parle d'antan. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un rendez-vous, une musique, deux yeux très doux. Les tiens, maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique.
Patachou, chanté traînait, une archive de Lina datée de 1954. Comme l'écrivait la journaliste Véronique Mortaigne dans les pages du Monde en mai dernier, quelques jours après la disparition de Patachou, eh bien cet artiste a bien été l'agent actif de la chanson française. En dépit pourtant d'une notoriété exceptionnelle, elle n'aura jamais oublié ses origines populaires. Elle aura même beaucoup souffert de son étiquette de chanteuse de cabaret, ce divertissement pour snob, comme elle disait, elle, la femme des faubourgs.
Je suis une femme de faubourg. Je suis née à Ménilmontant. J'ai été à l'école à Ménilmontant. J'ai été élevée à Ménilmontant. J'y suis restée jusqu'à 23 ans, quand je me suis mariée. Je ne connais rien, je ne connaissais rien de ce qu'il est convenu d'appeler les milieux élégants et le monde. Il fallait donc que je remonte cette pente et cette espèce de publicité arbourg, que je détache cette étiquette de divertissement pour snob, pour que les gens de la salle comprennent que c'était à eux que je ressemblais, que c'était d'eux que je sortais, que c'était comme eux que j'étais, et que c'était comme eux que j'avais envie de rester. Mon Dieu, j'avais pas du tout envie de devenir autre chose, ni d'être autre chose. Et c'était grave pour moi. Car je vous l'ai dit à l'occasion, j'aime l'être humain, j'aime bien les êtres, j'aime bien les gens en général. Mais j'aime bien qu'on m'aime aussi, je suis très malheureuse quand on m'aime pas. Et alors, ça a été ça, ce besoin de contact avec le public. Il faut pas prendre ça pour de l'ambition. Je vous promets absolument que ça n'était pas le fait, la place à l'affiche, c'est pas ça. J'avais besoin de chaleur. J'avais besoin. Parce qu'on les sent, vous savez. Vous n'avez pas idée de ce qu'on les sent dans une salle. C'est pas croyable. Et alors j'avais besoin de ça. Et je sentais que pour gagner ça, il fallait travailler. J'allais travailler. Enfin, travailler au sens où je l'entends, c'est-à-dire non pas travailler, truquer, trafiquer, fabriquer un truc. Non mais. Travailler pour être prête à faire quelque chose de convenable, qui leur prouve que j'étais une ouvrière de mon métier, comme eux sont des spécialistes du leur. Je crois que c'est le seul moyen de leur ressembler.
Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon Paris, pour qu'on t'aime? Mais pour qu'on t'aime comme ça. Les enfants de Paris, dans leurs yeux éblouis, ont tout l'amour du monde. Les enfants de Paris, sur la scène un jeudi, vont faire le tour du monde. Ils ne rêvent jamais de vivre à Napoli ou d'aller à Venise, en flânant à leur guise, ce qui les grise, c'est toi Paris. Les enfants de Paris ont dans leurs jambes nues tous les rythmes du monde. Et c'est par un titi que la chanson connue est sifflée à la ronde. S'il ne sait pas très bien tous les mots du refrain, il finit le poème avec « Je t'aime ». Capri, San Francisco, Athènes ou Bornéo, tous ces noms les amusent.
Car en vrai parigot, ils ont c'est bien connu dans le cœur une muse. Il suffit d'un muguet qu'on vante au 1er mai pour qu'ils fassent une fête et tournent dans leur tête comme un poète des mots nouveaux. Les enfants de Paris, quand ils auront grandi, s'ils font le tour du monde, verront comme on s'ennuie éloigné de Paris et de ses rues qui grondent. Car on voudrait souvent se retrouver enfant dans les rues de Paris, près de la Seine. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon Paris, pour qu'on t'aime? Mais qu'est-ce que t'as pour qu'on t'aime comme ça? Tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre, d'une rencontre au bord de l'eau. Ne reste que quatre initiales et deux cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos 20 carats qui depuis se sont fait la paire. Tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense aux doigts qui tous ont tracé quelques je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le
Patachou sur la scène de l'ABC à Paris en janvier 1962 interprétait Les Enfants de Paris et Le Bal chez Temporel, un document d'archives de l'INA, comme voyons environ 80% de cette émission consacrée à Patachou. Merci aux équipes de l'Institut National de l'Audiovisuel et à notre collaboratrice Françoise Montaille qui a déniché les pépites. C'est Benjamin Vignal qui a mixé Les Greniers de la Mémoire aujourd'hui, réalisé par Christine Amado. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de France Musique.